Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un moment clé de l'histoire mondiale, l'effondrement spectaculaire du Tawan Tinsuyu, qu'on connaît mieux comme l'Empire Inca.
Oui, c'est ça.
Vers 1528, c'était le plus grand empire de la planète, un vrai colosse andin. Et pourtant, en quelques années à peine, une troupe de moins de 200 Espagnols, menée par Francisco Pizarro, a précipité sa chute. Comment est-ce possible? Ça intrigue, non?
C'est la grande question, oui.
Notre source principale aujourd'hui, c'est une analyse assez fouillée, Anatomie de la chute du Tawan Tinsuyu. Et ce qu'elle suggère, c'est que ce n'est pas juste une histoire de conquête militaire.
Non, pas seulement.
L'idée forte, c'est que les conquistadors, ils ont plutôt agi comme un catalyseur, comme un détonateur sur un empire qui était déjà fragilisé.
Exactement. Fragilisé de l'intérieur par des crises profondes. On parle souvent d'une tempête parfaite.
C'est ça. Et notre exploration aujourd'hui, ça va être de décortiquer un peu cette thèse.
Tout à fait. L'analyse nous invite à voir les Espagnols moins comme des conquérants invincibles que comme des acteurs qui ont su exploiter et même accélérer une implosion qui était déjà en cours.
Ils se sont glissés dans les failles, en quelque sorte.
C'est l'idée. Ils se sont insérés dans des fractures qui étaient déjà bien ouvertes. Pour comprendre ça, on va d'abord regarder l'Empire à son apogée. Voir ses forces, bien sûr, mais aussi ses faiblesses, ses fragilités structurelles.
D'accord.
Puis, on verra comment des crises terribles, une épidémie, une guerre civile, l'ont frappé juste avant l'arrivée des Européens.
Le timing, ou quoi?
Le timing est crucial, oui. Ensuite, on regardera la mécanique même de la rencontre, de la conquête. Et enfin, très important, la longue résistance et la survivance culturelle. Parce que ça nuance vraiment l'idée d'une disparition totale.
Oui, c'est essentiel de ne pas s'arrêter à la chute de l'État.
Absolument.
Alors, commençons par ce géant andin, un territoire immense. 5500 km du nord au sud, de la Colombie actuelle jusqu'au Chili.
C'est énorme.
Plus de 10 millions d'habitants. Une mosaïque de peuples, de langues, et tout ça géré depuis Cusco, la capitale sacrée, par le souverain absolu, le Sapa Inca. Comment un tel édifice a pu se construire si vite?
Les Incas, ils étaient les héritiers de siècles de civilisation andine. Ils sont pas sortis de nulle part. Hein.
Non, bien sûr.
Ils ont brillamment synthétisé, intégré des savoir-faire anciens. Que ce soit en organisation, en ingénierie, en agriculture, en spiritualité. Et ils ont porté ça à une échelle impériale.
Et politiquement?
Politiquement, c'était une monarchie absolue et théocratique. Le Sapa Inca, il était considéré comme le fils du dieu soleil Inti, et il détenait tous les pouvoirs. Législateur, chef militaire, grand prêtre, tout.
Une concentration de pouvoir incroyable pour l'unité, c'est sûr. Mais on sent déjà poindre une fragilité là, non? Si le sommet vacille...
Précisément. C'est exactement ça. Cette hyper-centralisation autour d'une figure quasi divine, c'était une vulnérabilité majeure.
Ah oui.
Si l'Inca disparaît, ou s'il est capturé, c'est pas juste une crise politique. C'est un chaos cosmologique. C'est tout le système qui risque la paralysie.
D'accord, je vois.
Et c'est exactement ce que Pizarro a construit et exploité. En visant directement Atahualpa à Cajamarca, il a frappé au cœur symbolique et structurel de l'Empire.
Malin et brutal.
Oui.
Et au quotidien, comment fonctionnait cette société Inca?
C'était très hiérarchisé. Il y avait la noblesse impériale, les panacas, puis les chefs locaux qui étaient intégrés, les curacas, et enfin le peuple, les atun runa.
Et la base?
La base de tout, c'était la communauté villageoise, l'ayu, fondée sur des liens de parenté et surtout sur l'entraide, l'aini.
Et l'économie? Vous disiez pas de monnaie, pas de marché. C'est étonnant.
Oui, c'est fascinant. Tout reposait sur des systèmes de réciprocité et surtout sur une redistribution massive gérée par l'État.
Comment ça, la redistribution?
Les terres étaient divisées en une partie pour le culte du soleil, une partie pour l'Inca, l'État, et une partie pour la communauté. Et les citoyens, les hommes surtout, devaient un impôt en travail. C'est la fameuse mita.
Ah oui, la mita.
C'était un système de travail obligatoire pour les grands projets de l'État. Construire les routes, les temples, servir dans l'armée, cultiver les terres de l'Inca.
D'accord. Et donc, l'État stockait les surplus, les récoltes, et redistribuait en cas de besoin. Une sorte de sécurité sociale avant l'heure, mais...
C'est un peu ça, oui. Il y avait d'immenses entrepôts, les colcases, partout dans l'Empire. Ça assurait une sécurité alimentaire assez remarquable. Mais, comme vous le disiez, ça créait aussi une dépendance énorme vis-à-vis de l'État central. Et tout ce système reposait sur une infrastructure technique impressionnante.
Oui, le fameux réseau routier impérial, le Capacnian, plus de 40 000 km de route pavée. C'est incroyable.
avec des ponts en suspendu, des tunnels.
Une merveille d'ingénierie, oui.
Ça permettait aux messagers, les chasse-skis, de parcourir des distances folles très rapidement.
Mais j'imagine que cette efficacité, elle s'est retournée contre eux, non ?
Ironiquement, oui. C'est un des paradoxes. Ces routes exceptionnelles, conçues pour l'administration et l'armée inca, eh bien, elles ont grandement facilité la progression rapide des Espagnols et de leurs chevaux.
Ah oui, les chevaux.
Exactement. Ils pouvaient se déplacer vite à travers des terrains qui auraient été sinon très difficiles d'accès. Une force qui devient une faiblesse.
C'est fou. Et pour gérer tout ça, sans écriture alphabétique, comment ils faisaient ?
Ils utilisaient les quipus, ces fameuses cordelettes à nœuds.
Ah oui, les quipus, j'ai vu des images, c'est très complexe.
C'était un système sophistiqué, oui. Principalement pour la comptabilité, les statistiques démographiques, le suivi des récoltes, des impôts. Un outil essentiel pour l'administration centralisée.
Et juste pour compter ou plus que ça ?
C'est le grand débat. Certains chercheurs pensent qu'il pouvait aussi contenir des informations narratives, peut-être historiques, une sorte de proto-écriture. Mais ce n'est pas encore prouvé.
Fascinant. Donc on a un empire immense, très organisé, technologiquement avancé dans certains domaines, comme l'ingénierie ou l'agriculture en terrasse.
Oui, les Andennes.
Voilà. Et l'architecture ? Ces pierres ajustées sans mortier, mais vous parliez de fissures internes, avant même l'arrivée de Pizarro.
Oui, et c'est là qu'on entre vraiment dans le cœur de cette tempête parfaite. Deux événements cataclysmiques vont frapper l'Empire juste avant 1532.
Lesquels ?
Le premier est invisible, insidieux. Les maladies européennes, la variole notamment. Elles semblent avoir atteint les Andes vers 1525-1528.
Avant Pizarro lui-même ?
Bien avant Pizarro, oui. Probablement arrivé par les réseaux d'échanges indigènes depuis le Nord, depuis les Caraïbes ou l'Amérique centrale où les Espagnols étaient déjà présents.
Et là, c'est la catastrophe. Un ennemi totalement inconnu, aucune défense immunitaire.
Exactement. L'impact démographique a été apocalyptique. On estime des taux de mortalité qui vont de 50 à 90% selon les régions, à terme.
90%, c'est inimaginable.
Des communautés entières anéanties, des familles à cause du manque de main-d'œuvre. C'est une déstructuration sociale massive.
Terrible.
Mais le coup le plus dur, peut-être, fut politique et symbolique. Vers 1528, l'empereur Huayna Capac et son héritier désigné, Ninan Cuyoqui, meurent de cette maladie. Probablement la variole.
L'empire est décapité, subitement ?
D'un coup, oui. Imaginez le choc pour la population. Le Sapa Inca, le fils du soleil, celui qui garantit l'ordre cosmique. Terrassé par un mal inconnu, invisible.
Ça a dû être perçu comme un présage terrible, un signe des dieux.
Un présage funeste, absolument. Ça a dû saper le moral et la confiance dans l'ordre établi. Et ce vide au sommet, eh bien ça a déclenché immédiatement le deuxième fléau.
La guerre civile.
La guerre civile sanglante pour la succession. La guerre des deux frères. Entre Huáscar, basé à Cusco, soutenu par l'aristocratie traditionnelle.
Et son demi-frère, Atahualpa.
Exactement. Atahualpa, basé à Quito, qui avait avec lui les meilleures armées de l'Empire, celles qui avaient combattu avec son père sur la frontière nord.
Et cette guerre a duré combien de temps ?
Environ 3 ans, de 1529 à 1532. Une guerre fratricide d'une violence extrême, qui a ravagé l'Empire de l'intérieur. Des massacres, des villes détruites, comme Tumbes, sur la côte.
Que Pizarro verra en ruine en arrivant.
Justement. La guerre s'est terminée par la victoire des généraux d'Atahualpa. Huáscar est capturé en 1532, Atahualpa est le nouveau maître de l'Empire.
Mais à quel prix ?
Un prix énorme. On parle de centaines de milliers de morts, peut-être 1 million. L'Empire sort de cette guerre exsangue, militairement épuisé et surtout profondément divisé.
Divisé ?
Oui. La faction de Cusco, les partisans de Huáscar, vouaient une haine tenace à Atahualpa. Ils le considéraient comme un usurpateur venu du Nord.
Et c'est à ce moment précis, en 1532, que Pizarro et sa petite troupe débarquent. Le timing est absolument incroyable.
C'est la clé de tout. Pizarro arrive et il trouve un empire certes unifié sous un vainqueur, Atahualpa, mais c'est un empire fracturé, traumatisé par l'épidémie, épuisé par la guerre, et avec une capitale historique, Cusco, qui est profondément hostile au nouveau souverain.
C'est la deuxième composante majeure de la tempête.
Exactement. Et les Espagnols vont pouvoir jouer sur ces divisions avec une habileté redoutable.
Justement, parlons de Pizarro, un personnage assez fascinant. D'origine modeste, illettré, mais très expérimenté et visiblement assoiffé d'or et de gloire.
C'est ça. Il avait déjà exploré la côte, il avait vu les richesses, notamment à Tumbes, avant sa destruction. Il obtient l'autorisation royale, les capitulations de Tolède, en 1529.
20 hommes, une trentaine de chevaux. Une force dérisoire. Comment ose-t-il s'aventurer à l'intérieur ?
C'est l'audace folle de Pizarro. Il débarque, il voit Tumbes en ruine, il comprend sans doute la fragilité du moment et il prend cette décision incroyable, marcher vers l'intérieur, vers Cajamarca, pour rencontrer Atahualpa qui s'y repose avec son immense armée victorieuse.
Atahualpa aurait pu l'écraser facilement, non ?
Sur le papier, oui. Mais Atahualpa, il est fraîchement vainqueur d'une guerre civile. Il est au sommet de sa puissance, entouré de dizaines de milliers de guerriers. Il sous-estime sans doute totalement cette poignée d'étrangers. Il est peut-être curieux aussi.
Il accepte la rencontre.
Il accepte la rencontre sur la place principale de Cajamarca. Une grave erreur.
On entend souvent que c'est la supériorité technologique, les chevaux, l'acier, les arquebuses qui a tout fait. Mais l'analyse que nous suivons suggère que c'est plus complexe.
C'est un facteur important, bien sûr. Surtout l'effet de choc et de terreur de la cavalerie. Un animal inconnu et des armes à feu.
Le bruit, la fumée.
Oui, mais ce qui se passe à Cajamarca, le 16 novembre 1532, ça relève plus de l'embuscade bien préparée et de la collision culturelle que d'une bataille rangée.
Collision culturelle.
Oui. Pizarro a préparé un piège. Il a caché ses hommes, sa cavalerie, son artillerie dans les bâtiments autour de la place. Atahualpa, lui, arrive en grande pompe, porté sur sa litière d'or, avec une suite de plusieurs milliers de personnes, mais peu armées.
Pourquoi peu armé ?
Parce qu'il vient pour une démonstration de pouvoir rituel, une audience impériale, pas pour un combat. Il ne s'attend absolument pas à une attaque.
D'accord. Et là, il y a ce fameux épisode du requerimento.
Oui, le prêtre Valverde s'avance, il présente le requerimento. C'est une injonction formelle, lue en espagnol, à se soumettre au roi d'Espagne et aux dieux chrétiens.
Ce qui devait être totalement incompréhensible pour Atahualpa.
Complètement. Imaginez la scène. Un texte lu dans une langue inconnue, des concepts religieux et politiques étrangers. Atahualpa se voit comme un dieu vivant, fils du soleil. Puis on lui tend une Bible ou un bréviaire comme source de cette autorité nouvelle.
Et il le jette par terre ?
Il l'examine, ne comprend pas et le laisse tomber ou le jette. Probablement par incompréhension ou par offense. Et ça, c'est le signal que Pizarro attendait.
Et là, c'est le massacre.
Un carnage éclair, oui, les canons, les arquebuses tirent, la cavalerie charge cette foule piégée, désarmée, les épées d'acier font des ravages, en très peu de temps, moins d'une demi-heure, disent les chroniques.
Une demi-heure.
Environ 2000 Incas sont tués, peut-être 5000 prisonniers, sans aucune perte côté espagnol. Et surtout, Pizarro capture Atahualpa vivant.
C'est ça, le coup de maître terrible.
C'est la symétrie totale dont on parlait. Les Espagnols appliquent une tactique de capture du chef par la ruse et la violence maximale. Atahualpa, lui, était dans une logique d'audience impériale, de rituel. Il n'a rien vu venir.
Atahualpa prisonnier, c'est là qu'il propose ses tronçons fabuleuses, non ? Remplir sa cellule d'or et d'argent ?
Oui. Voyant l'avidité incroyable des Espagnols pour les métaux précieux, il fait cette offre folle, remplir la pièce où il est détenu une fois d'or et deux fois d'argent, jusqu'à une certaine hauteur.
Et la rançon est livrée ?
Oui, pendant des mois. Des caravanes de lamas apportent des trésors de tout l'Empire. C'est une quantité d'or et d'argent colossale. Mais ça ne sauve pas Atahualpa.
Les Espagnols ne tiennent pas parole.
Non. Ils s'inquiètent de possibles soulèvements. Ils montent un procès truqué. Ils l'accusent d'idolâtrie, d'inceste, de comploter contre eux depuis sa prison et surtout d'avoir fait exécuter son frère Huascar.
Ce qui était vrai apparemment. Hein.
Ce qui était probablement vrai, oui. Atahualpa craignait sans doute que Huascar ne s'allie avec les Espagnols. Quoi qu'il en soit, le procès est une mascarade. Atahualpa est condamné et exécuté par Garo en juillet ou août 1533.
La mort de l'Inca. C'est un coup terrible, décisif, mais comment, même après ça, 180 hommes peuvent-ils ensuite contrôler un territoire aussi vaste ?
L'analyse insiste beaucoup sur le rôle des alliances. C'est absolument fondamental. Et ça découle directement de la guerre civile et des décennies d'expansion inca, parfois brutale. Pizarro est très malin là-dessus. Il exploite à fond les ressentiments.
Les ressentiments de qui ?
Des nombreux peuples qui avaient été soumis par les Incas et qui ne les aimaient pas forcément. Les Huancas, les Chachapoyas, les Cañaris. Pour beaucoup d'entre eux, les Espagnols n'apparaissent pas comme des envahisseurs pires que les Incas.
Ils les voient comme des libérateurs.
Ou des alliés, circonstances.
Un peu des deux. Ils voient surtout une opportunité de se venger ou de retrouver leur autonomie. Du coup, ils s'allient aux Espagnols.
Et ils fournissent des troupes.
Oui.
Des milliers de guerriers auxiliaires, des porteurs, du ravitaillement, des informations. L'armée qui va marcher sur Cusco et vaincre les dernières résistances fidèles à Atahualpa, elle est en fait majoritairement indigène.
C'est un point qu'on oublie souvent.
Essentiel. Et Pizarro manipule aussi les factions Inca elles-mêmes. Après avoir éliminé Atahualpa, le champion de Quito,
il s'allie avec la noblesse de Cusco, celle qui soutenait Huascar.
Exactement. Ce qui lui ouvre les portes de la capitale. Cusco tombe en novembre 1533. Pizarro y entre avec ses alliés indigènes et il installe un nouvel Inca, fantoche celui-là, Manco Inca, un frère de Huascar.
Et là, c'est le pillage de Cusco.
Un pillage terrible, oui. Le temple du soleil, le Coricancha, est dépouillé de ses plaques d'or. C'est symboliquement et matériellement la fin de l'Empire comme État souverain.
Et la fondation de Lima, en 1535, sur la côte, ça marque quoi?
Ça marque un basculement définitif. Le centre du pouvoir colonial se déplace des Andes vers le Pacifique. Une ville tournée vers la mer, vers l'Espagne. L'ère coloniale commence vraiment.
Fin de l'État, donc. Mais l'idée d'une disparition totale des Incas, on y revient, est trompeuse. L'analyse insiste là-dessus. Il y a une résistance qui s'organise.
Oui, et elle est loin d'être négligeable. Ce Manco Inca, l'empereur fantoche installé par Pizarro,
oui.
Il comprend assez vite le jeu des Espagnols. Il voit comment il traite son peuple, comment il le méprise lui-même, il est humilié. Alors en 1536, il s'échappe.
Et il fait quoi?
Il organise une immense rébellion. Il lève une armée énorme et l'assiège Cusco pendant près de 10 mois. Il manque de reprendre la ville. Il assiège aussi Lima en même temps. C'était très sérieux.
Il a failli réussir.
Il a failli, oui. Finalement, il est repoussé, notamment grâce à l'arrivée de renforts espagnols et à l'aide continue de leurs alliés indigènes. Mais il ne renonce pas. Il se retire dans la région montagneuse et reculée de Vilcabamba.
Vilcabamba. Et là, il crée un nouvel État Inca.
C'est exactement ça. Il fonde un royaume néo-Inca indépendant à Vilcabamba. Et cet État va résister pendant 36 ans, de 1537 à 1572.
36 ans, c'est incroyable.
Oui, c'est une période fascinante. Il mène une guérilla, lance des raids sur les territoires contrôlés par les Espagnols. Et ils s'adaptent même.
Ils s'adaptent? Comment?
Ils apprennent à utiliser les chevaux, les armes à feu européennes contre les Espagnols eux-mêmes. 4 souverains vont se succéder à Vilcabamba. Manco Inca lui-même, qui sera assassiné par des Espagnols renégats qu'il avait accueillis.
Quelle ironie!
Oui. Puis ses fils, Sayri Tupac, qui finit par négocier et se soumettre. Titu Cusi, qui reprend la guérilla puis se fait baptiser juste avant de mourir. Et enfin le dernier.
Tupac Amaru.
Tupac Amaru Ier. C'est lui qui règne quand le vice-roi Francisco de Toledo décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce foyer de résistance.
Et il y arrive?
Oui. En 1572, Toledo lance une expédition militaire massive. Vilcabamba est trouvée, détruite. Tupac Amaru est capturé alors qu'il fuit dans la jungle amazonienne.
Et qu'est-ce qu'il devient?
Il est ramené à Cusco, jugé sommairement et exécuté publiquement sur la place principale, décapité, devant une foule indigène en larmes. C'est la fin définitive de toute structure étatique Inca. Le dernier Inca est mort.
Fin de l'État, oui. Mais pas de la culture, vous insistiez là-dessus, c'est un point crucial de l'analyse.
Absolument crucial. Si l'État disparaît en 1572, la culture, elle, survit. Elle se transforme, elle s'adapte, mais elle ne disparaît pas.
La langue quechua, par exemple, elle est toujours bien vivante?
Tout à fait. Elle est parlée par près de 10 millions de personnes aujourd'hui dans plusieurs pays andins. C'est énorme.
Et d'autres traditions?
Énormément de traditions perdurent. Souvent en se mélangeant, en se syncrétisant avec le catholicisme imposé. Par exemple, le respect, voire le culte de la Pachamama, la terre-mère.
Oui.
Et des Apu, les esprits sacrés des montagnes. Ça reste très vivace dans les communautés andines.
Et au niveau matériel, les techniques?
Oui aussi. Les techniques agricoles en terrasse, les andennes, sont toujours utilisées. Des aliments comme la pomme de terre, le quinoa, qui viennent des Andes, ont conquis le monde. L'art du tissage, avec ses motifs complexes, est toujours pratiqué. Et même l'organisation communautaire de l'ailu, l'entraide, le haïni, ça perdure dans beaucoup de communautés rurales.
Donc, ce n'est pas un monde disparu, fossilisé?
Non, pas du tout. C'est un monde qui a enduré, qui s'est adapté, qui a résisté à sa manière pendant des siècles. Et l'analyse mentionne même une sorte de renaissance de l'identité inca au XXe siècle.
Ah oui, hein, comment ça?
Ben, avec la réinterprétation, la recréation de certaines fêtes, comme l'Inti Raymi, la fête du soleil, à Cusco. C'est devenu un événement touristique majeur, mais ça témoigne aussi d'une fierté retrouvée.
Et le nom du dernier Inca, Tupac Amaru ?
Il est devenu un symbole extrêmement puissant de résistance contre l'oppression. Il a été repris au XVIIIe siècle par José Gabriel Condorcanqui, qui s'est fait appeler Tupac Amaru II, et a mené la plus grande révolte indigène de l'histoire coloniale.
Ah oui, bien sûr.
Et puis ce nom a continué à inspirer divers mouvements politiques, sociaux, révolutionnaires en Amérique latine au XXe siècle. Et même, anecdote amusante, jusqu'au célèbre rappeur américain Tupac Shakur.
C'est vrai. Donc, sa mère a été une militante des Black Panthers et l'a nommée ainsi en hommage.
Exactement. Donc on voit que l'héritage inca n'est pas mort. Il est vivant, il est réinterprété, il est utilisé comme un outil de résilience, de mémoire et parfois de revendication.
Fascinant. Alors, si on synthétise pour conclure, pour répondre à notre question initiale, comment et pourquoi cet effondrement si rapide ? L'analyse pointe vraiment vers cette convergence fatale, cette fameuse tempête parfaite. On voit bien qu'il n'y a pas une seule réponse simple.
C'est exactement ça. Si on devait retenir l'idée essentielle de cette analyse, c'est que les Espagnols n'ont pas tant vaincu un empire solide par leur seule force qu'ils n'ont été le détonateur.
Le catalyseur.
Le catalyseur, oui. D'une bombe à retardement qui était déjà amorcée par les crises internes. On peut peut-être résumer les causes sur trois niveaux, si on veut schématiser.
Voyons ça.
Premièrement, il y a les faiblesses structurelles de l'empire. C'était un empire multiethnique, très vaste, d'expansion récente, donc les loyautés de certains peuples soumis étaient fragiles. Et il y avait cette hyper-centralisation politique autour de la figure de l'Inca.
La tête était trop importante et trop fragile.
Voilà. Deuxièmement, il y a les crises conjoncturelles, celles qui arrivent juste avant les Espagnols. C'est l'épidémie dévastatrice qui décime la population, qui la démoralise et qui décapite l'Empire. Et c'est la guerre civile qui suit, qui épuise militairement et qui divise profondément l'Empire.
Le terrain a été miné, en quelque sorte.
C'est ça. Et troisièmement, il y a le choc externe, l'invasion espagnole elle-même, avec un avantage technologique ponctuel, certes, mais surtout une immunité biologique face aux maladies qu'ils apportent, et des tactiques de guerre, une brutalité, une duplicité politique.
Totalement imprévisible pour les Incas.
Voilà, une façon de faire la guerre basée sur la ruse, la capture du chef, la terreur, qui était complètement étrangère aux codes andins.
Sans oublier, bien sûr, les décisions des acteurs clés. L'excès de confiance ou l'erreur d'appréciation d'Atahualpa à Cajamarca, l'audace incroyable et la duplicité de Pizarro, et puis le choix crucial de nombreux peuples andins de s'allier aux nouveaux venus contre les Incas.
Tout ça mis ensemble, ça donne cette chute spectaculaire. Donc, pour résumer, l'état politique inca, le Tahuantinsuyu, disparaît définitivement en 1572 avec l'exécution de Tupac Amaru. Mais le monde inca, ou plutôt le monde andin façonné par les Incas, lui, il a survécu.
Il s'est transformé.
Il s'est transformé, bien sûr, sous la domination coloniale puis républicaine. Mais la culture, la langue, les traditions, elles continuent d'influencer profondément les sociétés andines aujourd'hui. La chute politique n'a pas entraîné une disparition culturelle complète, loin de là.
Une exploration vraiment passionnante qui montre bien la complexité de ces grands tournants de l'histoire. C'est bien au-delà des récits simplistes de conquêtes militaires qu'on entend parfois. Merci beaucoup pour cet éclairage basé sur cette analyse.
Avec plaisir. Et ça laisse peut-être une question en suspens, une pensée finale pour réfléchir.
Ah oui, laquelle ?
On a vu l'importance cruciale du timing de l'arrivée des Espagnols après l'épidémie et la guerre civile. Mais si Pizarro et ses hommes étaient arrivés 10 ou 15 ans plus tôt, disons vers 1515 ou 1520, quand l'Empire était à son apogée sous Huayna Capac, avant ces catastrophes.
Bonne question.
Est-ce que l'histoire aurait été différente ? Est-ce que l'Empire, uni et au sommet de sa puissance, aurait dû repousser cette petite troupe d'envahisseurs ? Ou bien, est-ce que les failles structurelles dont on a parlé et la nature même de l'expansion européenne rendaient de toute façon l'effondrement inévitable ? Peut-être juste plus lent ou différent dans sa forme.
Savoir si c'est l'événement qui fait l'histoire ou les forces profondes.
Voilà, c'est une question classique en histoire, mais dans ce cas précis, elle est particulièrement frappante. De quoi continuer à réfléchir au poids des événements face aux structures de longue durée.